Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes en mars 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Salut.
Et nous accueillons aujourd'hui Charles Amir et Philippe. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes tous les deux donc des membres de Super Meeple. On verra un petit peu vos responsabilités au sein de la société dans quelques instants, mais nous allons commencer par notre traditionnel fil rouge.
Et cette année, on va partir sur des portraits chinois. Si vous étiez une mécanique de jeu, laquelle ?
Ben, je dirais multi-mécanique.
Une carte multi-usage ou
multi-mécanique, je dirais, voilà. Multi-usage, ouais, voilà. Carte à deux faces. Ah. Un dé à six faces, voilà, tiens.
Pouce d'ouvrier, moi j'aime bien pouce d'ouvrier. Ouais.
Et si vous étiez un thème de jeu ?
Alors moi, ça serait du Met Fan ou du zombie.
Zombie, ah, j'aime bien les cerveaux.
Ah, j'aime bien médiéval fantastique aussi, mais ça peut être du réaliste aussi. Hein.
Si vous étiez un élément de jeu.
Ah, t'as pas le droit au DSI Fast, tu as déjà sorti.
Ouais, sûr. Ah, je veux dire une carte, justement. Un atout.
Joli.
Un dé. Ouais, mais je me souviens que j'avais demandé à. Ah, je pense que c'était Nizia à l'époque, effectivement, si, enfin, oui, s'il devait aller sur une île déserte, c'était une interview, c'est vieux, s'il devait aller sur une île déserte avec un seul élément pour créer des jeux, etc., lequel il prendrait, il m'avait répondu un dé, évidemment, parce que.
Pour le hasard.
Ouais, puis les quantités de possibilités sont phénoménales. Ah,
ouais, moi, au niveau de la carte, j'avais eu beaucoup d'idées de proto qu'on fait jamais, mais j'ai toujours dit une carte peut avoir 8 faces, en fait, parce qu'on peut faire des croisements dans la carte et recto verso, donc chaque coin peut faire, fonction et ça fait 8 fonctions sur une carte.
Le multi-usage, voilà. On le trouve.
Et pour finir, si vous étiez un jeu.
Zombicide.
Revoilà les zombies.
Ouais, je réponds en disant un jeu que j'aime bien en réalité. Moi, pour changer de ce que je dis habituellement, je vais dire Samurai par exemple, de Knizia. C'est vraiment un jeu excellent.
Ouais, il est très bon.
Très bien, merci beaucoup. On va donc passer maintenant à l'interview. Donc, on vous avait déjà reçu à ce micro et c'était déjà à Cannes en 2019. Ça commence à dater.
Hein. Ça ne nous rajeunit pas trop. Quoi.
Ça tourne et c'est d'ailleurs plus long que la date de création par rapport à la première interview, parce que vous êtes donc Super Meeple a été créé en 2015.
2014, si j'ai bien... ouais, c'est ça. 2014, c'est le premier jour 2015, ouais, c'est ça.
D'accord. Exactement. Si vous voulez plus d'infos, allez réécouter, chers auditeurs, l'interview de 2019. Là, on va plutôt parler de ce qui s'est passé depuis 2019 pour Super Meeple. Voilà. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous faire une petite mise à jour sur la société, son effectif? On sait que Philippe, à l'époque, tu étais un petit peu un intermittent du spectacle, donc tu assistais justement tous les festivals.
C'est ça, j'étais venu un peu en renfort pour... J'ai commencé par faire de l'événementiel un peu pour eux, pour Super Meeple, sachant que j'étais passé déjà actionnaire, mais juste actionnaire sans rien faire de particulier. Et ils m'ont demandé de participer au groupe, j'ai dit oui. Signé. Et j'aurais dit, il faudrait peut-être faire des festivals un peu. Donc, je suis parti dire, on va faire du festival. Le premier était le BGF. Voilà. Et, sachant que vous faisiez déjà Cannes et Paris Ludique, c'est tout. Voilà. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et Charles Amir m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait s'occuper de notre site? Sachant qu'il savait pas vraiment mon ancien métier et ce que j'avais pu faire ailleurs. Et effectivement, comme j'étais blogueur, autrefois, je connais bien WordPress, donc j'ai repris la main sur le site. Pareil pour la boutique. En fait, ce qu'il savait pas non plus, c'est que j'étais ex-actionnaire dans une boutique de jeux. Donc, j'ai créé le site de vente aussi. Tout ça en home office et au fil du temps, il m'a dit, écoute, on t'embauche en tant que salarié. Voilà, donc je suis 100% Super Meeple maintenant.
Et le reste de la société, donc, pareil, une croissance au niveau de l'effectif?
Une croissance, on peut toujours parler de croissance. Effectivement, maintenant, ça reste un effectif quand même très réduit. On a quand même, effectivement, plutôt une organisation basée avec des prestataires, mais en gros, on est 3 salariés à plein temps, plus et 2 à temps partiel, on va dire. Voilà, c'est ça.
Ouais. Oui, voilà. C'est le modèle qu'on retrouve le plus en plus maintenant, un noyau assez réduit, et plus avec de la prestation aux besoins, parce qu'effectivement, quand on crée des jeux, il n'y a pas besoin d'avoir un graphiste à 100% du temps ou un chef de projet à 100% du temps.
C'est tout Poisson en l'occurrence, parce qu'on était que deux à plein temps, et là on faisait la DA et tout ce qui est graphisme en prestation, et finalement considérant la somme de travail, c'est commencé à avoir du sens d'avoir quelqu'un à plein temps.
Voilà. On a embauché un graphiste là, okay, qui démarre là maintenant.
Voilà,
qui,
depuis fait, début de l'année, ouais, ça c'est voilà, Jean.
D'accord. Ah oui, c'est tout frais, on est au mois de février, mars, oui. Là, donc effectivement, il vient d'arriver. Et justement, donc le métier de Super Meeple, donc c'est le développement et la localisation. Vous jouez sur ces deux arcs-là.
Mmh. Oui, on va dire localisation, développement, parce qu'on est quand même en majorité encore dans la localisation, sachant que tout doucement, création, on va dire, est de plus en plus important. Au départ, c'était un jeu au maximum par an, et maintenant, on est à deux, et je me demande si on va pas passer à plus après, quoi. Ouais, après, le problème, c'est qu'on n'est pas nombreux. C'est très chronophage.
En fait, si on regarde en termes de nombre de jeux, effectivement, maintenant, on cible entre 8 et 9 jeux par an. Alors, 8 et 9 jeux, dont en gros 2 éditions et à peu près, on va dire, 6 localisations. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes de nombre de jeux, on en a plus en localisation, clairement. Par contre, en temps passé, évidemment, c'est pas comparable. Donc, mais voilà, ouais, tout à fait. C'est à peu près ça le modèle. Et pour l'instant, c'est à peu près ce qui est prévu pour les prochaines années. Pas pour les prochaines années. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Hein.
Et en termes de ratio sur les jeux familiaux ou experts, vous avez différentes gammes.
On va dire 5/6, on va dire plutôt 3/6 experts, 2/6 initiés et 1/6 familial. Enfin, familial plus même. Ouais.
C'est vrai que le plus familial qu'on ait fait, le dernier qu'on ait senti, ça doit être Expédition autour du monde, donc que on peut clairement considérer comme familial. C'est vrai que depuis chronologique, on est quand même un peu au-dessus du familial, quoi. C'est vrai que c'est quand même majoritairement du jeu catégorie, on va dire expert ou catégorie initié, voilà. Oui,
on fonctionne pas trop sur le fait de faire un ratio comme ça. Ce qu'on veut, nous, c'est des jeux qui nous plaisent. Donc on fonctionne au coup de cœur. Alors forcément, on est des gros joueurs, donc on a du mal avec les petits jeux classiques, on va dire. Je les dénigre pas du tout, hein, mais on se dit d'abord, un, on n'a pas trop envie de marcher sur les plates-bandes de ceux qui font ça très bien, et puis deux, nous, bon, jouer un petit jeu d'ambiance, tout ça, ça peut être bien, mais c'est pas notre habitude, on va dire. On aime bien les jeux un peu plus costauds où il faut réfléchir, quoi. Et on a du mal d'ailleurs avec ça.
Ouais, je profite pour bien insister là-dessus, parce que c'est vrai que de temps en temps j'entends ça, de certains joueurs, etc. Enfin, en tout cas, en tant que joueur, etc., je n'ai jamais, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne considère absolument pas, je mets pas du tout d'hierarchie dans le jeu. Il y en a quand même, effectivement, il y a quand même une petite sphère, de temps en temps, de joueurs experts qui pensent que, en jouant des jeux experts, on est plus intelligent, ou plus, je sais pas quoi, que d'autres jeux. Enfin, c'est complètement aberrant. Bah, effectivement, il y a moi, d'ailleurs, je joue à plein de jeux, hein, même si j'ai une préférence pour les gros jeux, et la difficulté aussi de développement, elle est différente, en fait, en fonction des types de jeux. Donc, en tout cas, il y a aucune, quand on parle, c'est pour ça qu'on dit qu'en gros, catégorie, expert, etc. Enfin, tant qu'il n'y a pas de connotation, de connotation un peu hiérarchique derrière, etc., moi ça me va, mais c'est vrai que on dit ça expert parce que finalement, on se cale un peu sur l'Asdor, finalement. Maintenant, si on a repris ça, mais bon, c'est tout.
Le terme expert est toujours un petit peu difficile à entendre.
Oui, c'est ça. Expert, on est bien d'accord qu'on ne lance pas des fusées. N'importe qui pourrait jouer un jeu expert en réalité s'il se penchait un peu dessus.
Le terme allemand est peut-être mieux avec connaisseur, mais bon.
Oui, voilà, c'est le nom de la catégorie Asdor, c'est pour ça qu'on reste là-dessus.
Et chez Super Meeple, on lance des fusées quand même.
Ouais, c'est pas mal. D'ailleurs.
C'est un mauvais.
On lance pas de scud, mais des fusées. Moi, quand je vais sur mon association, quand j'allais dans mon association, ils étaient déparés sur des jeux simples au départ. Et en fait, tous les joueurs veulent à chaque fois un petit peu plus de challenge. Alors, il y en a qui jouent, on va dire, occasionnellement, ils en restent là. Ceux qui jouent très souvent, au bout d'un moment, j'ai remarqué, ils cherchent à avoir un petit peu plus de challenge à chaque fois. Et je pense qu'on devient expert, en fait, petit à petit. Alors, il y en a qui arrivent à rentrer direct, mais la plupart des joueurs mes amis qui jouent à des gros jeux avec moi maintenant, ils sont passés petit à petit à de plus en plus compliqués, voilà. Et ils cherchent le challenge. Et inversement, quand on est au bout de ça, on va peut-être redescendre un petit peu. C'est ça qui est assez marrant, parce qu'on va chercher justement à se dire, je vais me sortir de le truc où je me fais des nœuds au cerveau et je vais aller m'éclater. Bah là, je parlais zombies tout à l'heure. Pour moi, je fais plein de jeux de costaud avec Super Meeple. Je vais pas dire longue en journée, parce que si on s'amusait toute la journée, ce serait sympa. Mais j'ai ma dose déjà avec les jeux de Super Meeple au niveau des jeux stratégiques et experts. Et du coup, je m'éclate même à titre personnel plus sur d'autres jeux, en fait.
Ok, j'ai généralisé, mais on peut dire costaud ou touffu si
ouais,
vous voulez.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Enfin, bref, on se comprend, on a tout comprend. Ouais.
Donc moi, j'ai noté, j'ai fouillé un petit peu, hein, j'ai noté à peu près 95 jeux pour Super Meeple, entre les sorties, les annoncés, les bientôt sorties.
Maintenant, on sait que nous, on les compte pas, nous.
Alors, ça a été dur, hein, parce que si on prend BGG, il mélange toutes les extensions, il en envoie 159.
Ouais.
Donc,
oui, une centaine, je pense. Enfin, il me semble qu'il y en a un peu plus d'une centaine, à peu près, quand même.
Et donc, je sais pas si vous avez donné l'info, vous envisagez à peu près combien par an votre rythme de croisière?
Ben, qu'on a dit entre 8 et 9 à peu près. Alors, sachant qu'après, s'ajoutent les extensions, justement.
Ah, ok.
Donc, quand, des fois, on sort notre planning annuel, les gens, ils font, encore des milliers de jeux à sortir, bla, bla. Et, alors, je peux comprendre, de toute façon, il y a des milliers de jeux qui sortent, de toute façon. Mais, faut bien comprendre qu'on s'efforce aussi de pas dire oui. Alors, des fois, on est à limite, quoi. On essaye de sélectionner en sachant qu'il faut pas non plus partir dans le délire de faire 30 jeux par an. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup quand on voit la liste, parce que il y a au moins, je pense, 50% de la liste qui doit être correspondre à des extensions.
Okay. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand je dis effectivement 8-9 jeux, c'est vraiment des nouveaux jeux. C'est-à-dire que même Chronologique Babylone, je le compte pas dedans, parce que pour moi c'est une suite. Alors, mais cette année, clairement, je crois qu'on en a 8 ou 9. Enfin bref, voilà. Ouais. Donc on essaie vraiment de limiter à ça. C'est vrai que on teste beaucoup de jeux, hein, énormément de jeux pour en localisation, parce que les développements, on les connaît déjà, parce qu'on travaille dessus, etc. Mais c'est vrai qu'on dit énormément, on refuse énormément de jeux, même des jeux qui sont bien, etc. Mais parce que aussi à un moment donné, voilà, il faut.
Ça nous arrive quand on s'engueule, du coup, pour dire moi je veux, pour moi non c'est nul, c'est moche, voilà.
Dans le cadre de la localisation, alors.
Oui. Moi j'ai des menaces de démission, tout ça.
Aïe aïe aïe. Il y a sa carrière dans la balance. Parce que justement, dans l'aspect localisation, comment vous avez la main pour changer les graphismes ou autre? C'est quelque chose qui peut se discuter ou c'est assez verrouillé?
Non, on peut toujours discuter.
Le moins possible, quand même. On essaie le moins possible, mais c'est la seule chose qu'on a changé, c'est les couvertures, je crois. Si je dis pas de bêtises, on a dû changer trois ou quatre couvertures.
C'est ça.
Un titre aussi qui parlait pas. Ben, on va prendre l'exemple de Dragonnier, par exemple, où le nom d'origine, c'est Amber Heart. Donc, si on laissait Amber Heart, ça fait pas trop penser à l'univers des dragons. Donc, on a dit ça, par exemple, faut qu'on change. Et après, on a eu des couvertures qui collaient pas au niveau du jeu, qui faisait trop enfantin, par exemple. Donc ça avec Caldera Park et Savannah Park, je crois, et une qui était très moche, on s'est dit non, on peut pas.
En réalité, on peut discuter, il y a toujours moyen de discuter un petit peu, effectivement, c'est effectivement sur l'aspect, c'est toujours d'abord uniquement sur l'aspect visuel. On va pas commencer effectivement à discuter sur le reste. Si on a signé le jeu, c'est qu'on considère que le jeu est bon d'un point de vue mécanique, puis bon, ils connaissent mieux le jeu que nous, donc a priori, donc on va pas discuter là-dessus. Par contre, c'est effectivement sur les visuels, sur la couve, ça peut arriver. C'est vrai que jusqu'à présent, on a fait que ça. Il y a une petite marge de manœuvre possible selon les éditeurs, mais voilà.
Mais on cherche pas à le faire, en fait.
Le graphiste que vous avez recruté va pas travailler du coup sur les localisations, mais plutôt sur les développements.
Alors, c'est un directeur artistique qu'on a.
Il dessine pas. C'est lui qui va mettre en forme les règles, par exemple, les postes de communication, les choses comme ça.
Okay. Après, ça c'est la partie graphiste.
Ça c'est la partie graphiste.
Voilà. Par contre, effectivement, la partie direction artistique, ça va constituer effectivement pour nos éditions. En fait, donc la partie graphiste, ça va être sur l'aspect effectivement, comme dit Philippe, communication, et puis aussi tout ce qui est mise en page de localisation. Donc, ils travaillent quand même là-dessus en termes de localisation, mais c'est un travail un peu technique de graphiste. Par contre, sur l'aspect direction artistique, tout ça, c'est pour nos éditions en propre, travailler avec les illustrateurs, donner une orientation, etc., etc. Voilà.
Et puis, sûr, pour revenir sur la modification à la localisation, ça engendre des frais de refaire un visuel, ça engendre du temps en plus dans le développement.
Ce qui peut arriver, c'est qu'on propose, c'est déjà arrivé une ou deux fois, une petite variante, par exemple. Mais vraiment, un petit point de règle qu'on se dit, ça serait bien. Et quand on le fait, on a forcément l'accord avec l'éditeur et voir l'auteur d'origine, quoi.
On va se concentrer maintenant un petit peu plus sur votre, on va dire, cœur, j'allais dire le jeu expert ou connaisseur, comme vous disiez que c'était en fait 50%, vous visiez à peu près 50% sur ce type de jeu.
Pour être honnête, ce que me disait Philippe, on vise pas vraiment. Alors, c'est vrai que c'est notre cœur, c'est ce qu'on aime encore une fois.
Ouais, c'est ce qu'on aime.
Voilà. On a des partenaires et des jeux en développement qui sont effectivement plutôt dans cette catégorie. D'abord, c'est notre ligne éditoriale, hein, donc on reste là-dessus. Après, on est ouvert aussi éventuellement à des jeux plus légers, mais il est vrai que on teste des jeux effectivement plus légers, mais on a un peu du mal à s'enthousiasmer en fait. On a du mal à se projeter. Alors, je pense parce qu'on sait pas aussi, on connaît peut-être pas bien de marché là-dedans, que c'est ce qui pourrait marcher ou pas. Mais c'est vrai que on veut faire du jeu expert. Voilà, on s'est pas fixé 50%. C'est juste que voilà, on signe plus de jeux experts parce qu'on connaît. Quand on a des partenariats avec Mind Clash et Fireland par exemple, bon, il y a de grandes chances qu'ils nous proposent plutôt des gros jeux. Voilà, donc c'est
non, on teste un jeu. Enfin, on le découvre. J'aime pas dire test. On découvre un jeu. Ça peut arriver par exemple sur la plateforme Tabletop Simulator avec l'éditeur d'origine. Et en gros, si tous les deux, à la fin, on fait waouh, voilà, quoi. Peu importe le niveau, en fait, du jeu, quelque part. On évite les jeux d'ambiance. Mais de toute façon, on cherche pas à faire des essais de jeux d'ambiance, de toute façon. Voilà. Mais si jamais on tomberait dessus et qu'on aurait un waouh, pourquoi pas, hein. Ça pourrait arriver, hein.
Ouais.
Ça serait plutôt rare, mais voilà, quoi.
On l'a bien compris. Vous éditez ce que vous aimez et vous aimez plutôt le jeu expert.
Comme on a des goûts personnels, plutôt de jeux un peu stratégiques, forcément, le waouh arrive sur un jeu stratégique. Voilà. Mais rien n'est impossible. Voilà. Donc, je prends un exemple de Paper Dungeon. Moi, j'ai eu le coup de cœur en direct, qui est un jeu à cocher. On était en pleine vague, je vais même dire fin de vague des jeux à cocher. Il était pas très chaud, mais j'ai dit non, mais faut absolument le faire, et ça a super bien marché, mais parce que c'est un univers dans lequel je me sentais vraiment bien et où on a eu raison de le faire, par exemple. Et c'est pas un jeu spécialement stratégique.
Donc, revenons sur cette gamme un peu plus expert. Il y a un constat un peu général qui se fait sur une crise du jeu expert, sur peut-être des ventes moindres. Vous, quel constat faites-vous? Le partagez-vous? Comment le vivez-vous?
Alors, moi, j'ai envie de donner un coup de poing sur la table en criant foutaise.
Ça me va.
Ou je vous demande de vous arrêter. Non. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi il y a eu cette rumeur qui s'est répandu, mais on est plutôt d'accord, dans le sens où peut-être que d'autres éditeurs ont arrêté de faire des gros jeux, et du coup on les fait. On a moins de concurrents. Non, je sais pas trop en fait pourquoi il y a eu cette histoire-là. Je pense que c'est lié aux ventes boutiques peut-être, où c'est de toute évidence, je peux comprendre qu'une boutique aura plus de mal à vendre un jeu à 70, 80, 90, voire plus en niveau du prix qu'un jeu à 15, surtout qu'on est en pleine vague, on est en pleine vague encore peut-être des jeux de plis, de cartes et numéros, là, comme on entend parler.
Il y a des couleurs.
Ouais, des couleurs. Voilà, on est en pleine vague de ça, où ce sont des jeux qui tournent autour de 15-20 euros, donc forcément, c'est pas la même quantité, et c'est pas la même cible, et c'est quand même un secteur qui cible beaucoup plus étroit que ce genre de jeu là. Maintenant, dire qu'il est mort,
en tout cas, il est pas mort. Pardon.
Vous avez pas senti de décroissance?
On sent pas de décroissance, mais on sent quand même une tension à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a des exemples, des contre-exemples. Par exemple, si on prend Galactic Cruise, par exemple, qui était sorti, etc. Bon, bah, on avait fait un tirage qui était correct. Ce qu'on aurait fait d'ailleurs il y a quelques années, et on a tout vendu, donc on peut se dire bon bah finalement voilà. Pour autant, il faut quand même avoir, je pense même qu'il y a que c'est un secteur qui reste quand même assez compliqué, c'est-à-dire que il y a quand même on est sur une niche. Donc, qui, à mon avis, ne grossit pas énormément. C'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement des gros joueurs, des nouveaux gros joueurs. Enfin, voilà, donc qui vont acheter. On a aussi des gros joueurs qui partent un peu, mais ils partent pour des raisons perso, etc. Qui veulent jouer à des jeux un peu plus légers. Donc, au global, je pense, cette niche-là peut-être augmente un peu. En tout cas, augmente sûrement beaucoup moins, même en proportion, que la niche des joueurs grand public. Et c'est vrai que de ce fait, et c'est sans doute c'est une des raisons pour lesquelles sans doute il y a quand même globalement une tendance des éditeurs à plutôt aller vers le petit jeu. Mais et puis en termes de développement, pour être honnête, de toute façon, c'est financièrement, le développement de gros jeux, c'est vraiment, c'est absolument pas rentable. Si on ne raisonnait que rentabilité, jamais on ferait de gros jeux. Hein, le ratio des gros jeux, si on prend les 15 dernières années, on prend Terraforming Mars, Dune et Ark Nova. Au-delà de ces trois jeux, c'est des tirages qui sont quand même extrêmement limités. Et quand on voit le temps passer dessus, ça juste pas de sens. Donc on le fait d'abord effectivement par passion, mais c'est vrai d'un point de vue financier,
développement.
C'est pour ça que je voudrais changer ma Fiat Panda, quand même, qui a 27 ans. Non, je plaisante, mais je pense que le truc, c'est que déjà, nous, on a un public qui est plus réduit, puisque les gros joueurs, il y en a moins, forcément. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, les boutiques vont prendre moins de volume. Nous, on va produire moins de volume aussi. Donc, on peut pas se permettre de faire 200 000 exemplaires comme un Skijo ou ce jeu-là, même 100 000. Nous, quand on dit gros volume entre nous, quand on pense gros volume entre nous, on pense 5-7 000, quoi. Mmh. Et là, c'est un gros tirage. Et si on se plante, ça peut faire très mal, parce que la production d'un jeu comme ça, ça coûte, comme on prend pas une marge énorme, forcément, ça fait mal. Donc, on part sur des plus petits tirages. Donc, je sais que les gens râlent parce que ça peut tomber en rupture si ça marche bien. Sachant qu'on multiplie maintenant les tirages automatiquement quand le jeu est très demandé. Parce qu'on reçoit des mails de gens qui crisent. Non, je plaisante, mais il y en a qui veulent absolument que ça revienne. Donc c'est normal, donc on a des jeux qui ont 3-4 tirages, je prends Ark Nova, Andros, Creatures, des choses comme ça. Mais il faut se dire par contre qu'un jeu qui plante chez nous, ça en plante un deuxième, parce que tout ce qu'on a perdu sur le premier est bouffé par la marge de l'autre, en fait. Donc quand on se plante sur un jeu, on perd deux jeux quelque part.
Est-ce que c'est ce constat-là qui a fait que vous avez décidé de changer votre mode de diffusion des gros jeux?
En partie, quand même.
Je vais juste rappeler encore une fois que ce mode de diffusion a concerné un jeu en 2025, en l'occurrence Galactic Cruise. Ouais. On concernera deux sur 2026, World Order et Revenant. Et la raison est simple. En fait, ne sont concernés par ce mode de distribution un peu différent, effectivement, que les jeux en localisation et les gros jeux qui nous demandaient. Typiquement, par exemple, Revenant. Si je prends Revenant, donc qui est le préquel de Voidfall et qui est un gros jeu, mais qui est un peu plus léger que Voidfall tout de même. On avait pas spécialement prévu de passer par ce système-là, mais en réalité, on va en faire 2000 exemplaires, ce qui est pas énorme, mais ce qu'on pense être correct. Le problème, c'est que comme c'est de la localisation, quand je vois le prix qu'on a payé en termes de traduction, c'est énorme. Si à un moment donné on veut juste un minimum espérer rentabiliser un petit peu quand même le projet, c'est pour ça qu'on essaie de passer par d'abord cette préco de 300 qu'on fait à peu près 200 ou 300 selon, en direct, ce qui nous permet de marger un peu plus, et après effectivement avec le système de boutique derrière,
c'est quasi sécurisé. Pas 100%, mais sécuriser une partie de l'investissement qui est dedans. Et notamment, l'année dernière, c'était le Galactic Cruise, où la boîte, si on prend toutes les extensions et tout, on est à plus de, je sais plus combien, 120, 150, je m'en rappelle plus. Où forcément, il faut qu'on se sécurise derrière un petit peu. Et c'est pour ça qu'on fait cette politique-là. Après, faut bien comprendre que ça concerne très peu de jeux. Que ces jeux-là, finissent par atterrir quand même dans les boutiques. Alors que j'avais eu des rumeurs en disant Super Meeple arrêtait avec les boutiques, ils veulent plus rien faire avec nous, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, donc sur tous les jeux, voilà. Donc ce qui est faux, on sécurise notre partie comme ça, mais on fait pas par exemple des financements participatifs. Et un financement participatif, on en a déjà fait, peut-être qu'on en refera, mais c'est nos limites. Alors que là, comme vient de dire Chalamir, c'est 300 boîtes, parce que on calcule de telle manière à avoir cette sécurité financière, on va dire, sans pour autant aller écrabouiller les boutiques en disant il y a nos limites, et à ce moment-là, les boutiques doivent se dire là, j'en vendrai zéro.
Est-ce que vous voulez réexpliquer avec vos mots
le principe qui concerne effectivement encore une fois certains jeux en localisation? Ça consiste à, donc on a un certain tirage, on fait une préco donc de 200 ou 300, on s'était dit à peu près 300. Peut-être 10% de la totale, mais peut-être sur le Revenant ce sera peut-être 200, enfin bref voilà. Donc une sorte de préco qui inclut le jeu, plus on fait des bundles un peu spéciaux avec, bref voilà. Et une fois qu'on a ça, il y a une préco qui est faite auprès des boutiques comme pour habituellement. La différence, elle est simplement que une fois que les boutiques vont préco leur jeu, une fois que le jeu sortira, il n'y aura pas de possibilité de repréco. C'est-à-dire que le delta, ce qui restera, ce qui n'aura pas été préco par les boutiques, reviendra dans le giron, on va dire, en guillemets, de Super Meeple, et il sera vendu en direct. Voilà. C'est tout. Donc, c'est qu'on va, en fait, dans cet exercice, encore une fois, c'est pour sécuriser un petit peu l'aspect financier, évidemment. Mais c'est aussi, on demande aussi à ce moment-là, pour certains jeux, comme celui-ci, de s'engager un peu plus. C'est-à-dire qu'une préco, mais bon, ça veut dire qu'une boutique qui aurait préco dans un premier temps deux jeux, par exemple, elle va peut-être en prendre trois au lieu de deux, en se disant bon bah voilà j'en prends éventuellement un plus parce que comme je pourrais pas refaire de tricot. Voilà, ça reste assez ça, voilà l'impact là, je pense que on a fait couler aucune boutique hein, faut,
non
on aura coulé aucune.
Honnêtement on a positionné le curseur pour pas les emmerder quoi en fait. C'est mon expression mais voilà.
Faut savoir quand même que sur 100
pour nous sécuriser sans les emmerder
sur une centaine de jeux qu'on a joué qu'on a sorti jusqu'à présent une centaine de jeux il y a un jeu qui n'est pas sorti en boutique. En plus de ça, qui passait quand même, c'est Coffee Traders, parce que il y avait un système, parce qu'en fait, on l'avait, ce qui est terrible, parce que finalement, on l'a mis d'ailleurs à ce prix-là, parce qu'on devait passer, on a fait passer par une sorte de, la boutique, en fait, les gens venaient la chercher en préco à la boutique.
Ouais, c'était pas
efficace. Et donc, il y avait un pourcentage qui était reversé, etc. Enfin, bref, c'était pas efficace. Mm. Et c'est le seul jeu sur Bootsan, etc. Enfin, on a toujours été extrêmement partenaire des boutiques, c'est toujours le cas, et voilà, c'était juste, sans doute, une communication, peut-être maladroite de notre part, hein, ça, je sais pas, et après, plus l'effet réseaux sociaux où effectivement dès qu'il est possible effectivement de travestir les propos de quelqu'un c'est toujours effectivement
sans que ça soit déformé forcément par nous
voilà. Ouais non c'est ouais. Sûr ouais. Bon ouais, voilà
okay. Quel est le constat sur
c'est un marché pour Galacticus ouais, ouais.
Voilà Galacticus ça ne marchera sans doute pas tout le temps comme ça. Galacticus il se trouve qu'effectivement on a fait le préco des 300, tout le reste a été vendu, donc c'est à dire quand même sur, donc 3 on parlait de 3000 ouais. 300 ont été vendus donc au direct et les 2700 restants ont été vendus au boutique. Voilà. Donc ça veut dire qu'au derrière il n'y a rien eu.
Zéro mail de plainte.
Donc ça veut bien dire que le jeu est bien en boutique. Hein. Il y en a 2700 qui sont partis en boutique. Donc voilà.
Et si je me souviens bien, se poser la question d'un retirage derrière cette vente, c'est encore un peu en interrogation quand vous aviez lancé le projet pour Galactic Cruise. Comment vous voyez, vous vous arrêtez là ou pour l'instant?
On n'a pas encore. On ne sait pas. Décidé,
alors ouais. A priori comme alors ce qui est c'est important de voir, c'est que on sort le jeu. On diffuse le jeu est parti en boutique. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on espère évidemment, c'est que le jeu sorte des boutiques. Parce que nous, le vendre en boutique, c'est une chose, mais il faut que derrière, voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit, et c'est ça qui sera le curseur. Il se trouve qu'il y a une grosse extension qui sort pour Galactic Cruise dans l'année. Ne pas avoir ne pas avoir de jeu de base à proposer, etc., c'est peut-être un peu dommage. Donc, sans doute, refaire peut-être une petite production du jeu de base, ça semblerait à peu près le logique.
Il en reste un dans une petite boutique en Corrèze. Tant qu'il n'est pas vendu, on fera partir.
Ah oui, mais les frais de port pour eux depuis la Corrèze. Ouais. Bonjour, hein.
Comment vous faites ce choix des jeux qui vont suivre ce circuit ou un circuit plus classique?
Ben déjà le tarif.
Ouais, le tarif, c'est vrai. Oui, le tarif, le type de jeu, par exemple, World Order, parce que c'est quand même un jeu un peu particulier, hein, qui est particulier sur, qui nous coûte très cher en termes aussi de localisation, notamment pour tout ce qui est, traduction. Voilà. Donc, par exemple, je prends un autre jeu, Ayar, par exemple, qui est aussi un jeu expert. Il passe pas par ce système-là, parce que c'est un jeu, expert classique avec un livret de règles 24 pages ou des choses comme ça. Enfin, donc c'est au cas par cas. Là j'avais cité le cas de Revenant, parce qu'encore une fois si on prend 2000 exemplaires c'est pas énorme, et qu'on paye déjà des milliers d'euros juste pour la traduction, etc., enfin bref, ce qui fait qu'au total c'est juste d'un point de vue c'est vraiment au cas par cas. Il y a pas ce qui est sûr, c'est que les localisations sont concernées, non pas les éditions, parce que les éditions on a une marge évidemment qui est plus importante que pour la localisation. Donc voilà, on va le faire, mais là typiquement sur cette année on sait qu'il y aura que ces deux jeux là Les autres jeux, on a Pikal Legend qui sort à la fin de l'année de cette année, mais c'est une édition, donc du coup ça passera pas par ça. Et puis il y a un autre jeu de Feuerland, qui est un gros jeu, mais on passera pas non plus okay.
Revenant, je reviens dessus. Il y a beaucoup d'icono et oui. Du coup, j'ai l'impression moins de traduction.
Ah non, non.
Je vous montrerai la facture de la traduction.
Alors, il y a deux livrets de règles. On a vu les deux livrets.
Mais... C'est vrai qu'il y a deux.
Non, je ne sais plus combien il y a de pages, mais non, c'est beaucoup, beaucoup de pages. Hein, parce qu'il y a le. Ouais.
Je vais faire tout de suite le truc. Ouais. J'ai donné à mon équipe d'animateurs pro un exemplaire à chacun. Et je dis, bon, vous avez juste à regarder le livret de règles. Ils m'ont dit, tu veux dire le livre? Le roman, ouais, le roman.
Tome 1 et tome 2.
Parce qu'il y a aussi tout un aspect aussi thématique. Parce qu'en fait, comme c'est un préquel de Voidfall d'un point de vue thématique, donc voilà, donc il y a aussi effectivement ton aspect. Non, c'est lourd, c'est ouais. Gros.
Après,
autant de Voidfall, mais bon.
Ça prend un coup de page parce que c'est heureusement bien expliqué.
Et ça nous a été très bien expliqué. Je confirme, ils avaient bien lu.
Ah ouais, d'accord, ouais. Vous l'avez testé, attendez.
Ouais, pour le petit twist à la fin de l'explication où l'animateur nous dit « J'aime pas les jeux d'espace. » Au bout d'une demi-heure d'explication.
Bon, si vous l'avez pas ressenti pour les explications, non, ça prouve que c'est un bon animateur.
Non, mais il le disait en souriant aussi. Mais... visiblement, c'était pas son thème préféré à lui, quand même.
Bon, c'est pas le mien non plus, personnellement, mais.
ouais, du coup, ouais, vous m'avez un peu coupé une question parce que, avec cette notion de crise, donc, que vous ne reconnaissez pas du jeu expert, on se disait, ben, vu qu'il y a moins de localisation, vous avez plus de choix par rapport au jeu qu'on a à SN pour localiser. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez vu aussi, qu'il y avait moins de localisation française, peut-être plus de jeux à localiser?
Moi, personnellement, j'ai rien vu de particulier. Moi, je vais pas à SN, mais je balaye les BGG, enfin les spiel listes qu'il peut avoir, les SN listes, pardon. Et je lui dis, regarde celui-là, et déjà il me dit, celui-là, ça sera un trafin, celui-là, ça sera Pixie, celui-là. Donc, j'ai rien senti de différent, en fait.
Ouais, non, c'est toujours.
En réalité, on a Pixie fait quand même effectivement de localiser des gros jeux. Il y a un trafin qui a toujours été là, qui est toujours là. Il y a Matago, alors pas via Matago, mais via d'autres
Lucky Duck, hein,
Lucky Duck. Enfin, voilà. Finalement, on n'a pas vu de différence fondamentale. Mais de toute façon, comme on n'est pas spécialement en recherche, c'est-à-dire qu'effectivement, après beaucoup d'années, vu qu'on connaît déjà effectivement beaucoup d'éditeurs, etc., ils viennent, ils nous proposent. Et comme on a déjà effectivement un partenariat, c'est un partenariat, mais qui nous oblige à rien avec Feuerland et avec Mindclash, hein, c'est un partenariat. On peut très bien dire non. Alors c'est vrai qu'on a très confiance dans leur jeu, mais bon, on peut très bien dire non à leur jeu. Enfin, il y a rien qui nous oblige à. Mais donc voilà, en tout cas, ils nous alimentent quand même un petit peu plus. Effectivement, les différents Bad Comet, par exemple, qui avait fait World of Creatures. Enfin voilà, il y a quand même pas. GameSoft qui avait fait Maracaibo. Enfin, on connaît quand même beaucoup, donc on a suffisamment, on va dire, de matière pour éventuellement. On a suffisamment, de choix.
Oui, parce que peut-être qu'il y a peut-être plus de propositions du coup, pas par rapport nous à notre habitude, ça change pas grand-chose, mais peut-être plus de jeux, gros jeux qui viennent être présentés. Mais comme on veut faire toujours la limite sans partir dans le délire, on a matière, quoi. Et puis, je pense que les autres éditeurs aussi, quoi. Voilà. Honnêtement, pas de différence. Hein.
Ok.
Moi, j'ai constaté une petite différence par rapport à quelques années, c'est que...
On a plus de cheveux blancs.
Ouais. Mais moi aussi, alors je le dis pas. Mais
La barbe, peut-être.
Non, mais c'est qu'avant, quand un jeu sortait à SN, la version française était décalée d'un an.
Ah,
et
oui.
Maintenant, on constate de plus en plus une sortie simultanée ou à quelques semaines... entre la VO et la VF, enfin, ou autre langue, mais en tout cas, il y a une volonté d'avoir un marché peut-être plus unifié au moment de la sortie, peut-être pour profiter d'un buzz mondial, d'une communication mondiale, mais pour moi, et du coup, ça doit engager un travail bien en amont, bien limite en même temps que le développement, pour avoir la possibilité de localisation.
On essaie en effet d'être le plus proche de la sortie VO. Après, je pense que la différence, elle est entre les partenaires historiques qu'on connaît très bien, qui sont capables de nous montrer le jeu bien en amont, ce qui nous permet de pouvoir tester le jeu suffisamment à l'avance, et si on peut le faire suffisamment à l'avance, c'est qu'on peut prendre la décision suffisamment à l'avance et donc de pouvoir travailler sur les fichiers suffisamment en avance. Voilà, c'est le cas par exemple avec Feuerland. Là, on va tester normalement semaine prochaine, ou en tout cas très prochainement, le gros jeu de fin d'année, ce qui nous permettra de voir et de prendre une décision, et puis de ce fait pouvoir travailler sur les fichiers. Voilà, là on a Mindclash, un autre jeu qui nous ont présenté, on va pouvoir aussi, voilà. Donc c'est aussi quand on a une bonne connaissance, qu'on connaît bien les partenaires et qu'on a suivi la formation suffisamment en avance, on peut effectivement prendre une décision à ce moment-là et être en phase. Après, voilà, si on est à SN par exemple et il y a un jeu qui sort et qui a l'air intéressant, on y va, bah le jeu il est déjà là, donc le temps que ça arrive, effectivement, ça prendra du temps.
Donc c'est une chose que vous pouvez faire surtout avec vos partenaires historiques,
oui,
plus que sur
les partenaires historiques ou les partenaires
du coup, on part sur du circuit plus automatisé parce qu'ils nous proposent à l'avance, nous on se prépare, on va dire, quelque part à avoir quelque chose qui arrive, voilà quoi. Ça devient, on va dire, une habitude qui n'était pas forcément vraie il y a 10 ans, quoi.
Et justement, comme ça, dans la recherche de localisation, est-ce que vous scrutez les différents financements participatifs pour trouver des choses que vous pourriez reprendre ou localiser?
Moi je regarde les trucs qui me toquent, je lui envoie et puis il me retoque ou pas, voilà. Et puis après, ça peut être juste visuel. Des fois, ça arrive, hein. Ou je dis, tiens, ça a l'air joli, ça. Et après, on commence à creuser, quoi. Voilà.
Après, c'est aussi beaucoup de communication avec... Enfin, que avec les autres, moi je discute aussi souvent avec d'autres partenaires, enfin allemands, etc., qui localisent eux-mêmes des jeux en disant tiens tu devrais regarder ça parce que moi je l'ai localisé, c'est bien. Ou, voilà, donc il y a aussi cette communication avec les autres éditeurs, etc., qui peuvent aussi amener des nouveaux jeux, des idées auxquelles on n'avait pas, etc.
Et en termes chronologiques, une localisation entre vous avez repéré le jeu. Enfin, vous avez signé le jeu, on va dire, parce que il arrive sur la table des joueurs. Ça prend à peu près combien de temps?
En façon chronologique, c'est nous déjà.
c'est
variable.
Ouais, c'est variable, mais ouais. Faut compter
entre 6 et 1 an, je dirais.
Ouais, 6 mois, non. Plus 6 mois, 6 mois et 1 an.
Ouais,
6 mois, c'est vraiment très très court.
Très court, ouais.
En plus, la plupart du temps, enfin, certains, par exemple, lorsqu'ils vont vouloir faire des productions joint. Conjointe avec d'autres, donc il peut y avoir des délais, etc. C'est bon, pas tous, mais certains. Donc, en gros, il faut compter, on va dire, moi je pense entre 8 mois et 1 an.
Ouais, on retrouve l'année de décalage dont on parle.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est parce que c'est aussi le côté expert du jeu qui fait qu'il y a beaucoup de pages et des choses comme ça qui nous demande plus de temps pour relire un livret de règles, plusieurs relais. Nous, on aime bien avoir double vérification de la vérification de la traduction.
Ah ben là j'ai eu les infos sur l'extension de Voidfall. L'extension de Voidfall qui va arriver. Il y a une extension, il y a un mode solo campagne. Donc là j'en discutais notamment avec Antoine Prono de Transludis qui est notre traducteur, etc. Par exemple, alors l'idée de donner rien que pour la traduction, c'est de donner au moins 3 mois, parce qu'en fait on est en train de parler sur le mode solo campagne de 120 pages de livres de mission plus 100 pages de, enfin là c'est monstrueux, et donc là on parle de 3 mois, sachant que 3 mois en plus pas un seul traducteur, ça sent mieux quand même. Mais voilà, donc dans ce cas là c'est vrai que
comme ça
c'est long,
1 euro par mot.
Donc effectivement, ça aide pas. Le fait que ce soit des gros jeux, ça prend du temps. On a généralement au moins 2-3 mois pour faire les, voilà. Donc supposons qu'on signe, le temps qu'ils nous envoient les fichiers, le temps qu'on travaille sur les fichiers, qu'on les localise, etc. Et ensuite, il faut compter à peu près au moins 4 mois, une fois que les fichiers sont validés, pour la production et pour l'envoi. Vous voyez, donc 4 mois plus 4 mois, on va dire. C'est 8 mois, je dirais entre 8 mois et 1 an, quoi, à peu près.
Ouais, sans perdre de temps, quoi, ouais.
Et puis on fait tout pour avoir le moins de retour possible, quoi. Je veux dire, si on s'est planté sur la traduction,
ouais, ça sert
en
quoi,
particulier sur des jeux, par exemple comme Ark Nova, où il faut vérifier chaque carte parce que s'il y a une erreur, bon, voilà.
Ah, ça c'est un temps, ouais, ça c'est effectivement, ouais. Alors les jeux de cartes particulièrement, mais ça c'est extrêmement stressant d'une certaine façon. Donc on a quand même mis en place un process avec Antoine Prono de Transudis, de lecture, de relecture pro aussi. Alors pas sur tous les jeux, mais sur certains jeux, de relecture par un pro. Et ensuite de
on a deux traducteurs en fait.
Ouais, ensuite de relecture externe, ensuite de relecture interne. Voilà, donc c'est, voilà, ça permet de sécuriser. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu encore de gros problèmes, mais c'est vrai que c'est...
Et puis en général, j'arrive à avoir un exemplaire un exemplaire en anglais encore. Où on joue et que le traducteur a ou n'a pas, et du coup, ça nous permet aussi mécaniquement de bien se situer sur la traduction.
Ouais. Et c'est vrai que ça, Philippe fait un gros travail là-dessus, c'est-à-dire que en relecture, lui, on est en dernière phase dans la relecture interne. On appelle interne, c'est-à-dire nous, en l'occurrence, mais Philippe, effectivement, quand il fait la relecture, en plus, il a la VO, donc il vérifie bien qu'il n'y a pas eu un 2 qui a été transformé en 3 par je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça nous a sauvé de plein de coquilles, etc., qui peuvent être, bref, voilà. C'est un gros travail au global, mais.
Il y a des coquilles qui peuvent dénaturer les choses.
Ouais, on n'est pas à l'abri, bien sûr, mais on essaye le plus possible de ne pas en avoir.
Oui, et puis renvoyer un petit paquet de cartes correctives, c'est
surtout ça qu'on essaye d'éviter.
C'est l'enfer. Non, mais ça, c'est vraiment ma phobie, moi.
C'est la marge qui s'envole.
C'est pour ça qu'on met de l'argent de côté pour s'enfuir au Brésil encore.
Ah, c'est pas les cartes qui voyagent. C'est l'éditeur.
Ouais.
Vous saurez où les chercher, c'est au Brésil. C'est on a l'info.
On change de pays maintenant, c'est lâché.
Et donc, une année à peu près sur une localisation. Et quand vous faites un développement, puisque vous avez quelques jeux en développement direct, notamment le dernier, ça doit être Tezoros qui est sorti.
Le dernier sorti,
Mythologie, là.
Mythologie, c'est 13 mars. Donc, c'est vrai que.
Ah, ça sera sorti après 13 mars.
Donc, c'est Mythologie, mais oui, c'est ça. Le le temps de développement, ouais. C'est très variable. Hein. C'est un gros jeu. Si on prend Tikal Legend aussi, il y a eu énormément de temps à s'y passer aussi sur les tests, etc. Tesoros, enfin, ces gros jeux, etc. Mm. C'est en gros un gros jeu comme ça. Faut compter au moins, enfin, si on s'y met bien, etc. Au moins 2 ans, quoi. Voilà, minimum. Après Mythologie, on a été relativement rapide. On a dû mettre 1 an et demi, je crois, à peu près.
Tout va dépendre de la force d'implication, notamment oui. des auteurs et de nous, bien sûr.
Et de nous aussi. Ouais,
donc là, on a eu 2 auteurs qui sont à fond dedans. Mm. Voilà. Donc ils mènent même à déballer les cartons, c'est génial.
Eux, ils sont assez exceptionnels.
C'est eux qui tiennent le stand pendant que vous êtes là, c'est ça.
Ils sont très très impliqués. Mais c'est bien de voir ça, ça veut dire qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, et du coup, on doute moins de l'équilibrage du jeu et tout ça, parce qu'ils sont à fond dedans, tout le temps. Donc c'est pour ça que ça devient rapide, en fait, parce que voilà, ils connaissent le truc à fond.
C'est vrai que sur Mythologie, on a fait à peu près, sur TTS, je pense 400 parties à peu près, avec des playtesters, etc. Et ça, effectivement, c'était fait parce que les auteurs, ils aussi étaient extrêmement moteur là-dessus. Enfin, ils ont pu aussi mettre en place, ils récupéraient des volontaires, etc. Voilà. Donc, mais cette partie-là de développement et d'équilibrage sur des jeux qui sont de taille moyenne comme Mythologie ou du gros jeu, c'est évidemment extrêmement long. Donc.
Et je vais être un petit peu terre à terre et peut-être un peu piquant, mais quoi développer des jeux comme ça qui prennent plus de temps, plus d'énergie, plutôt que de faire que de la localisation.
C'est ce qu'on demande tous les matins.
Non, parce qu'on aime bien ou non, parce qu'on va
pourquoi
pas faire.
On fait pas de Uno.
C'est que j'aimais la même chose. Hein. Un jeu en édition, un jeu localisation, ça reste effectivement différent. Un jeu en édition, c'est vrai, on a quand même passé beaucoup d'énergie. C'est un jeu aussi qu'on a aimé dès le début à la source, quoi, d'une certaine façon, et puis qu'on a façonné nous-mêmes, quoi, avec l'illustration qu'on voulait, la direction.
Ça fait partie de nos passions, je pense. De le faire, parce que la localisation, ça serait presque de l'industrie, on va dire, entre guillemets.
Vous les sentez
et
plus
le fait d'avoir la création entre les mains, c'est quand même grisant, quoi.
Ouais. Non, et puis voilà, puis avoir des prototypes qui se transforment et qui deviennent un jeu au final, etc., c'est sympa, quoi, c'est sûr que... Ouais.
Puis on veut se faire connaître à l'étranger aussi, non?
Alors oui, effectivement, oui, pardon, c'est vrai que tu fais bien noter ça, que c'est effectivement, les localisations, enfin, les jeux en édition propre, c'est évidemment, c'est le marché français, mais c'est évidemment tout le reste. Et ça, c'est très important, parce que ça représente pour nous effectivement une somme non négligeable, quoi.
Vous faites localiser à l'international.
C'est ça, bien sûr. Oui, c'est un intérêt, bien sûr. C'est pas tous les jeux, si on les faisait qu'en France, on serait déficitaire sur toutes les productions, hein, bien sûr.
Non, la Mythologie entière, ouais. Tout ça, quoi.
Et du coup, le partenariat que vous avez par exemple avec un Feuerland, c'est aussi dans l'autre sens, c'est vous leur présentez en priorité les jeux?
Pas forcément. En fait, non, ça dépend. Il y a les partenaires avec qui on connaît historiquement, avec lesquels on travaille. D'autres, c'est plus comme ça, au cas par cas, c'est très variable en fonction des pays aussi, en fonction des voilà.
Après, il y a une confiance qui s'instaure. On voit les goûts de chez Feuerland, et quand ils nous disent on va sortir tel jeu, on est presque en train de se dire déjà oui avant même de l'avoir vu.
Oui, dans l'autre sens, ouais, par rapport
ouais, dans les deux sens, ouais, voilà. Donc il y a une espèce de complicité qui c'est une question de complicité de goût au niveau des jeux. Donc,
vous, j'ai peut-être enfoncé une porte ouverte, mais vous faites que la France et les pays francophones en
localisation?
Ouais.
Quand on récupère les droits, c'est les droits de la langue. Donc, c'est les droits français. Donc, c'est-à-dire, ça limite France, Belgique, Suisse, Luxembourg
et Canada.
Et pareil pour des jeux en propre?
Ah non, par contre, en propre, c'est partout dans le monde.
Ouais.
Oui.
Enfin, c'est racheté par des éditeurs.
Par la localisation, c'est voilà. Ça. Ouais. Donc, ça, effectivement, donc là, on a... Oui, bien sûr, c'est ce qui nous permet vraiment de rentabiliser le jeu. Sans ça, ça serait pas...
On parle trop mal le coréen pour le faire.
Ah, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez pas une version anglaise propre à Super Meeple qui serait distribuable à l'international sans trouver un localisateur, mais juste un distributeur.
Alors, seulement sur notre financement participatif de Tikal Legend, où on l'a fait en bilingue direct.
Ouais, mais alors, je crois que j'ai pas compris ta question. Excuse-moi.
Avoir tous les livrets dedans, quoi, c'est ça?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais. Et attaquer des marchés sans avoir une localisation, mais gérer l'anglais par vous-même et avoir qu'un distributeur.
Non, effectivement, après, on a toujours, tous nos jeux sont toujours sortis en anglais, toujours sortis en allemand, etc. Donc, on n'a pas eu besoin de faire ça. Mais c'est vrai que, en fait, avec le temps, il se trouve que c'est moi qui gère ça, mais à force de connaître, effectivement, un nombre de pays et d'éditeurs quand même assez conséquent, c'est vrai qu'au final, on peut pas facilement, parce qu'il y a toujours une démarche, en tout cas on peut trouver quand même pas mal de partenaires à l'étranger et voilà.
Ouais, okay. Préférez-vous rester centré sur la France, qui est déjà un gros marché, je pense.
Oui, mais insuffisant pour l'édition, quoi.
Ouais, oui, ouais, c'est oui ça, pour ouais. L'édition. Okay.
Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez nous parler?
Non, on a dit qu'on répondrait à toutes vos questions, mais on n'a rien fait de mal. Non, on n'a rien de particulier. Ah, si, on a ouvert récemment un Discord public, on va dire, dans le but... Alors, sous réserve qu'on n'est que deux, vous avez compris, hein, pour l'instant, enfin trois avec Jean qui va arriver, plus ou moins, mais qui sera pas sur ce truc-là. Mais à deux, on va dire, on a notre Discord sur l'écran numéro 2 qui doit être allumé et on va essayer de répondre en direct. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, tout ça, même si on répond pas immédiatement, on regarde régulièrement parce qu'on voudrait créer une certaine communauté complicité avec nos joueurs. Donc ça peut être un point de règle, ça peut être n'importe quoi. Et ça c'est un je pense que c'est un truc qu'on a envie de faire, c'est une espèce de vraie communauté de fans, quoi, en fait.
C'est vrai qu'on a la chance d'avoir effectivement plutôt une communauté assez forte qui nous suit. Et c'est vrai que le Facebook, enfin les réseaux sociaux, etc., c'est toujours plutôt de l'information descendante, quoi, voilà. Et le Discord, c'est l'occasion justement de faire des échanges, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que là il y a le Discord qui a été lancé il y a quelques semaines. Et donc voilà, les personnes peuvent venir pour poser n'importe quoi comme question. Ils peuvent nous insulter, mais enfin bon, a priori, mais voilà, donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un lieu d'échange. Donc il y a des canaux en fonction des différents jeux. C'est un lieu de partage, c'est un endroit de partage. Donc ça, on va essayer de le développer au fur et à mesure.
On va essayer de rouler la chose. Sachant qu'on avait déjà aussi une page Facebook communautaire, mais c'est moins direct qu'un Discord.
Après le Discord, il faut le connaître effectivement. Il faut en parler parce que.
Oui, c'est vrai. Après bon, moi je réponds sur plusieurs canaux. Je m'occupe de la partie communication, donc je réponds à des messages qui sont faits par Instagram, par Facebook Messenger, tous ces trucs-là. Hein, déjà.
Ok, donc Discord Super Meeple.
Voilà. Discord Super Meeple.
Ah, ça se rajoute.
Voilà. On fera des posts sur régulièrement, je pense, pour le rappeler, mais
Effectivement. On le rajoutera dans le billet de cette émission.
Merci. Qu'on en parle sur un podcast, je trouve.
Ouais. Je connais 2-3 noms. Je peux vous les passer si vous voulez, hors micro. Oui, merci à vous de nous avoir accordé ce temps parce que 1 heure sur Cannes, on sait que vous êtes très pris et bien engagé, surtout un samedi parce que nous enregistrons le samedi, donc il y a foule. Donc merci encore. Chères auditrices et chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.